remercie beaucoup avant tout pour m'avoir invité à cet échange. Merci aussi de votre tolérance puisque je suis arrivé en retard pour des raisons qui ne sont imputables qu'à moi, donc mes excuses pour ça. Merci de la manière dont vous m'avez présenté. J'ajouterais qu'en plus de l'expérience dans le gouvernement français, j'ai eu aussi une expérience dans le secteur privé qui en fait a été déterminante pour mon intérêt pour la comptabilité puisque j'étais directeur financier d'une petite entreprise cotée en bourse au début des années 2000 et c'est ça qui est à l'origine de ma passion pour les normes comptables, même si ça peut paraître un peu indirect. Bruegel, vous l'avez présenté en deux mots, donc c'est un centre de réflexion, un think tank non partisan, européen, à la fois dans la manière dont il est construit et dans son ambition, qui est de contribuer à contribuer à son échelle, qui est modeste, à la qualité des processus de décision publique en matière de politique économique en Europe, à travers de la recherche, des débats, des discussions, mais qui se veulent rigoureux, ouverts, basés sur une analyse des faits et en même temps pertinents d'un point de vue de politique publique. Donc on est une organisation jeune, comme vous l'avez dit, créée en 2005, enfin qui a démarré en 2005, avec le soutien d'un certain nombre d'États membres de l'Union européenne, 16 États membres, dont la Belgique, et également un certain nombre de grandes entreprises, une vingtaine de grandes entreprises aujourd'hui, donc avec un financement qui est assuré à peu près à parité entre ces deux sources, publiques et privées, et avec un schéma de gouvernance qui est original, qui donne au conseil d'administration le pouvoir de déterminer les thèmes de recherche de Bruegel, donc sans qu'il y ait de liberté académique en quelque sorte, puisque ces thèmes sont déterminés par le conseil sur la base des désirs exprimés par nos membres, par nos financeurs. Mais en revanche, une recherche entièrement indépendante, sans possibilité d'interférence ni de nos sponsors publics, ni de nos sponsors privés, à partir du moment où ce programme de recherche a été arrêté. Donc un équilibre un peu original qui, pour l'instant, fonctionne bien, mais on n'en est qu'au tout début, puisque, encore une fois, c'est une institution qui est encore dans sa prime jeunesse. On est une équipe d'une vingtaine de personnes à Bruxelles, dont 8 chercheurs, sans compter les assistants de recherche et une demi-douzaine de chercheurs non résidents en plus qui sont répartis dans différents coins d'Europe et également hors d'Europe d'ailleurs. Donc les thèmes d'intervention sont toutes sortes de thèmes de politique économique mais qui ne se réduisent pas aux enjeux classiques de macroéconomie ou de politique commerciale mais aussi à des enjeux beaucoup plus structurels comme justement les normes comptables, donc avec notamment cette publication que j'ai distribuée, qui a été notre principale contribution pour l'instant sous format Bruegel en la matière, disons à la suite du livre que vous aviez eu la gentillesse de citer, que j'avais d'ailleurs coécrit avec deux co-auteurs plus jeunes. D'ailleurs, vous avez dit que vous étiez sur la liste de diffusion. Je vous encourage tous à visiter notre site internet www.bruegel.org qui permet de s'inscrire sur cette liste de diffusion et donc d'être tenu au courant de nos nouvelles publications. Alors, j'en viens à la comptabilité et donc à cet exposé introductif. Pour commencer par d'abord essayer de saisir dans la logique un peu de comparative qui est celle de ce cycle de séminaire, l'importance finalement de la comptabilité par rapport à d'autres enjeux que vous avez étudiés ou que vous avez l'intention d'étudier dans la suite du processus. Et il me semble que c'est un exemple ou un cas d'étude originale, intéressant, parce que les normes comptables sont à la fois un système de règles qui a un impact assez important sur le comportement des entreprises et donc sur la vie économique, et en même temps, comme vous l'avez dit rapidement en introduction, un système d'élaboration de la règle, de la norme, avec la distinction entre la règle et la norme, qui, je crois, est également à l'agenda du séminaire, mais on pourra y revenir, qui est très spécifique dans ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une gouvernance totalement mondiale, totalement privée, ou presque totalement privée, on reviendra sur le presque, et donc avec un schéma de légitimation, finalement, de cette norme, qui est extrêmement spécifique et en même temps comme vous l'avez dit en introduction, peut être annonciateur de développement qui pourrait avoir lieu dans d'autres domaines, que ce soit dans la sphère économique ou peut-être ailleurs que dans la sphère économique, même si je reviendrai sur cette création de légitimité qui, je crois, est à la fois pleine d'enseignements et en même temps avec beaucoup de spécificités. Alors, la comptabilité, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les règles avec lesquelles les entreprises, les règles au moyen desquelles les entreprises établissent leurs états financiers. Les états financiers, c'est typiquement le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, plus un certain nombre de notes annexes qui donnent toute une série d'informations complémentaires qui ne sont pas dans les états financiers proprement dit, mais qui font partie de l'information financière. C'est une technique qui remonte assez loin, qui c'est la comptabilité en partie double, qui est donc avec un actif, un passif, des débits, des crédits, qui est la pratique actuelle des entreprises et s'est développée au Moyen Âge, dans l'Italie, au moment où en fait naît le capitalisme à proprement parler, c'est-à-dire c'est au moment où naissent les premières entreprises capitalistes, avec la séparation entre le management de l'entreprise, les équipes de gestion et les actionnaires, les propriétaires. C'est à ce moment-là que naît la comptabilité, au départ comme outil de contrôle interne pour que à la fois les dirigeants puissent savoir ce qui se passe dans leur entreprise, notamment pour des entreprises qui déjà à l'époque commençaient à être multinationales, et pour les actionnaires de pouvoir comparer la performance des entreprises dans lesquelles ils investissent à la performance d'autres entreprises. Donc une genèse qui est très liée à la genèse du capitalisme lui-même et finalement une évolution depuis cette période pionnière de l'Italie médiévale qui a accompagné les évolutions du capitalisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails historiques, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au moment où de l'essor de l'entreprise capitaliste et notamment de l'entreprise à responsabilité limitée à partir des années 1860, ben c'est à ce moment-là que la comptabilité devient une technique véritablement élaborée. C'est à ce moment-là aussi que naissent les grands intervenants en termes de métier, donc les grands cabinets comptables, qui sont toujours les cabinets actuels. En fait, si vous prenez les actuels Big Four, les quatre grands cabinets, grands réseaux de comptabilité et d'audit internationaux, qui sont donc Deloitte, Ernst & Young, KPMG et PricewaterhouseCoopers aujourd'hui, qui sont de loin les leaders de la profession en termes de prestataires de services, ces quatre entreprises ont leurs racines dans la deuxième moitié du 19e siècle, selon les cas, dans des cabinets qui se sont créés soit au Royaume-Uni, soit aux États-Unis, et qui ensuite ont fusionné les uns avec les autres, mais donc ce sont quatre entreprises plus que centenaires et qui vraiment trouvent leur origine dans cette période de la seconde moitié du 19e siècle d'expansion du phénomène de l'entreprise et du financement capitaliste de l'économie. Alors les techniques se sont raffinées avec le temps, il y a notamment la technique de la consolidation qui permet d'avoir des états financiers uniques pour tout un ensemble de sociétés ayant des relations entre elles, qui est apparue à la fin du 19e siècle, et je ne veux pas rentrer ici dans la technique comptable, c'est pas le propos, simplement de dire que c'est le principal instrument de contrôle, à la fois interne et externe des entreprises, comme au moment des marchands vénitiens, c'est-à-dire interne pour le dirigeant d'entreprise de savoir ce qui se passe dans son groupe, et là encore, particulièrement dans un groupe multinational où il y a une distance entre la tête de l'entreprise et ses différentes ramifications qui peut être très grande. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles tous ces cabinets comptables se sont d'abord développés au Royaume-Uni, c'est que les entreprises coloniales britanniques ont vraiment été en pointe sur le développement de ces techniques de contrôle interne parce qu'il fallait contrôler ce qui se passe en Inde, en Australie, au Canada, etc., dans une seule et même entreprise. Et puis, contrôle externe par l'actionnaire, et notamment lorsque le capital est dispersé par les actionnaires minoritaires pour qu'ils sachent ce qui se passe dans les entreprises dans lesquelles ils ont investi, quelle est la performance de cette entreprise. Et là, c'est plutôt les États-Unis qui ont été le pays où s'est vraiment fortifié, élaboré et fortifié cette fonction de contrôle externe. Parce qu'à la différence du Royaume-Uni, les États-Unis ont eu, dès le 19e siècle, un capitalisme d'entreprise dont le capital était très dispersé, donc un capitalisme de petits actionnaires, ce qui donne une importance accrue à cette fonction de contrôle en regardant les états financiers des entreprises, par opposition à ce qui a été plus la tradition britannique, qui est celle d'un dialogue direct à Londres, entre les grands actionnaires et la direction de l'entreprise, et donc dans lequel la formation quantitative donnée par la comptabilité était moins essentielle. C'est donc aux États-Unis que s'est développée cette logique de contrôle un peu à distance entre des actionnaires minoritaires regardant des états financiers, disposant de prestataires, d'intermédiaires en termes d'information, que sont des analystes financiers, souvent liés aux courtiers en négoce d'actions, et également les agences de notation financière qui sont nées aux États-Unis entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, qui sont aussi un intervenant important dans ce domaine. Donc voilà, le résultat de tout ça, c'est que la norme comptable en elle-même a d'abord été un concept relativement imprécis, dans lequel on avait des pratiques comptables qui étaient plutôt des pratiques professionnelles, qui se transmettaient comme un savoir-faire professionnel à l'intérieur de professions assez organisées. Généralement, la profession comptable est un ordre professionnel qui s'est organisé comme tel dans la plupart des pays dès le 19e siècle, voire plus anciennement encore. Mais la grande nouveauté du XXe siècle de ce point de vue-là, ça a été l'apparition d'une norme comptable ayant un statut public. Et là, ce sont, pour les raisons que je viens de dire, les États-Unis qui ont été les pionniers, puisque c'est à la suite de la crise de 1929, du krach boursier et de la crise économique qui a suivi, que le gouvernement de Franklin Roosevelt a créé ce qui est aujourd'hui encore le cadre de la réglementation boursière aux États-Unis, et avec ça les normes comptables. Ce sont les lois boursières de 1933-1934 qui ont créé la SEC, la Securities and Exchange Commission, qui est l'autorité de régulation boursière américaine, fédérale, et qui en même temps ont demandé à cette SEC, nouvellement créée, d'établir et de faire respecter des pratiques comptables, des principes comptables généralement acceptés, Generally Accepted Accounting Principles, qui, au bout de quelques années, se sont cristallisés en un corps de normes formelles, édictées non pas par la SEC elle-même, mais sous son contrôle par la profession comptable, et ayant valeur de règles, sinon opposables, en tout cas, dont l'application a été vérifiée par la SEC de manière de plus en plus rigoureuse au fil des années. Ces normes comptables, US GAAP, donc Generally Accepted Accounting Principles, ont commencé à être codifiées à la fin des années 30, à la suite de cette législation, et ont été constituées en un corps de normes complet à partir du début des années 50, et ont continué à évoluer depuis, avec d'ailleurs des changements dans la manière dont tout ça a été gouverné, puisque à partir des années 70, à partir de 1973, la SEC a décidé d'enlever l'élaboration de ces normes à la profession comptable et de la confier à une autorité de normalisation comptable indépendante, dotée d'un financement propre, d'une gouvernance spécifique, qui est toujours là aujourd'hui, qui s'appelle FASB, Financial Accounting Standards Board. Qui est l'autorité de normalisation américaine, mais sous le contrôle de la SEC, dont le financement était essentiellement privé jusqu'au début des années 2000 et qui est essentiellement public depuis la loi Sarbanes-Oxley de 2002, qui a considéré que le financement privé ne permettait pas d'assurer une indépendance suffisante et que donc il fallait faire entrer, non seulement en termes d'autorité, mais également en termes de financement, le FASB sous la coupe plus directe de la SEC qui fournit aujourd'hui à peu près la moitié des ressources du FASB, l'autre moitié venant de la vente de publications, puisque la FASB fait comme, c'est un peu comme les codes juridiques, ils vendent des codes de normes qui sont achetés par les différents professionnels de la comptabilité aux États-Unis. Donc voilà, ça a été la naissance des normes comptables. Sachant qu'en parallèle, également dans les années 30, s'est développé dans d'autres types d'économies un autre mouvement qui a été celui de l'économie administrée, d'abord en Union soviétique et dans l'Allemagne du Troisième Reich, dans lequel il y a eu un phénomène différent qui a été le développement de la comptabilité nationale à cette époque et l'idée que les entreprises, dans une logique d'économie administrée, devaient participer à la mise en place d'un appareil de contrôle national en fournissant des comptes comme elles l'avaient fait avant, mais en fournissant des comptes normalisés sur la base d'un plan comptable général qui s'imposerait de manière uniforme à toutes les entreprises, de manière à ce qu'on puisse agréger les données d'entreprises particulières pour avoir un tableau complet de l'économie. Et ce concept du plan comptable général a été développé par un universitaire allemand, Eugen Schmalenbach, dans les années 20, et a été appliqué donc à partir des années 30 dans des situations plutôt d'économie administrée. Donc d'abord l'Union soviétique, l'Allemagne du Troisième Reich, la France de Vichy, qui a mis en place le plan comptable général à partir de 1941, bon, compte tenu de son histoire troublée, n'a pas vraiment mis en place de manière très efficace, mais l'idée a été reprise à la Libération, et donc le plan comptable général français date de cette époque, avec une version très semblable à celle de Vichy, publiée en 1947 et actualisée plusieurs fois ensuite. Et donc une tradition comptable un peu complémentaire à celle des États-Unis, dans lequel l'intention normalisatrice ne vient pas d'une intention de protection des actionnaires, comme ça a été le cas aux États-Unis après la crise de 1929, mais d'une logique de statistique nationale, en fait, et de pilotage public de l'économie. Je mentionne ça puisque ces deux traditions, en fait, se sont mélangées, notamment dans les pays européens. L'Allemagne ayant longtemps vécu avec un système un peu intermédiaire, issu du plan comptable général, mais en reprenant beaucoup d'éléments de la comptabilité anglo-saxonne, et avec des compromis qui se sont établis de manière diverse dans les différents pays. Les Britanniques, qui, comme je l'ai dit, ont été un peu la terre d'origine de beaucoup des pratiques comptables actuelles, ont été très réticents à la normalisation. Ils n'ont accepté, en fait, de donner un statut public aux normes comptables que dans les années 80, donc assez récemment. D'ailleurs à la suite de directives européennes, pas de leur propre mouvement. Donc on a eu l'émergence de systèmes de normes nationales avec des histoires qui, comme vous le voyez, suivent un peu les histoires de chaque pays. Au Japon, typiquement, ça a été quelque chose qui a été introduit à la fin des années 40, au début des années 50, à la suite de l'occupation américaine et en prenant exemple sur un certain nombre de précédents américains, mais en même temps en les adaptant avec le code commercial japonais qui lui-même était issu du code commercial prussien à la fin des années, à la fin du 19e siècle. Donc des histoires nationales chaque fois qui se mêlent à l'histoire économique plus large. Alors, cet élément historique étant dit, qu'est-ce que c'est vraiment que le contenu de ces normes ? Est-ce que ce sont des normes purement techniques ou est-ce qu'elles ont une importance qui va au-delà simplement un compromis technique comme, je sais pas moi, les normes de calibrage des boulons ou de choses comme ça ? C'est une question qui n'est pas, qui n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air parce que les comptables ont tendance à plutôt voir la norme comptable comme un instrument neutre, un instrument de mesure, mais qui n'a pas vocation à influencer les comportements. Dans la pratique, comme beaucoup de normes de mesure, il s'agit en fait d'un instrument d'influence sur les comportements, puisque, comme on le sait, c'est ce qui est mesuré qui détermine beaucoup de comportements dans la vie des entreprises, comme dans la vie d'autres organisations. De fait, sinon c'est pas forcément dans l'intention, mais de fait, la norme comptable détermine les comportements des entreprises, parfois d'une manière assez significative. Prenons un exemple. Je sais bien que la plupart d'entre vous n'êtes pas des comptables, donc je vais essayer de pas être trop technique, mais un exemple qui a été assez médiatique, c'est celui de la comptabilité des stock-options, notamment aux États-Unis. Comme vous le savez, les stock options sont ces instruments qu'on donne à des salariés qui leur permettent, le cas échéant, d'acheter à un prix déterminé à l'avance une action de leur entreprise. Donc, si le cours de l'action au moment où ils l'achètent est plus élevé que ce prix déterminé à l'avance, d'avoir une plus-value significative. qui dépend évidemment ensuite de l'évolution ultérieure du cours de l'option et du moment où il souhaite vendre celle-ci. Bon, la plupart des dispositifs de stock option sont des dispositifs qui ne coûtent rien à l'entreprise en termes de sortie de liquidité, de sortie de cash, puisque en fait, l'exercice de ce droit à une stock option, enfin l'exercice de cette stock option plus exactement, de ce droit à acheter une action à un prix déterminé, se traduit techniquement par une augmentation limitée du capital de l'entreprise, et en fait par un apport en capital du salarié à l'entreprise au moment de l'acte d'achat, simplement un apport qui se fait à un prix inférieur au cours coté du marché. Et donc le débat qui a agité la profession comptable pendant pas mal de temps, c'est de savoir comment est-ce qu'on devait comptabiliser ces attributions de stock option. Est-ce que c'était un coût pour l'entreprise, même s'il n'y a pas de sortie de cash, ou est-ce qu'il fallait considérer ça comme un élément un peu indolore en termes de résultats. La majorité des comptables considèrent que même s'il n'y a pas de sortie de cash, c'est un coût pour l'entreprise puisqu'il y a un coût d'opportunité, puisqu'on pourrait faire la même augmentation de capital au cours de marché et donc récolter plus d'argent pour l'entreprise. Donc il faut constater une moins-value, une perte pour l'entreprise qui correspond à la plus-value du salarié. Enfin, c'est un peu plus compliqué, puisqu'après, il faut mettre des probabilités, des évaluations d'options, etc. Les modes de calcul peuvent être un peu complexes, mais le résultat, c'est qu'il y a bien un coût pour l'entreprise qui, de ce point de vue-là, mérite d'être intégré dans le compte de résultat. Maintenant, les entreprises, naturellement, cherchent à présenter à leurs actionnaires des résultats les plus élevés possibles en termes de mesures de performance. Donc, notamment toutes les entreprises du secteur des technologies avancées aux États-Unis ont vu d'un très mauvais œil cette introduction de la comptabilisation en compte de résultat des stock options et donc ont mené au début des années 90 un lobbying très intense au Congrès pour dire qu'il est hors de question qu'on nous fasse entrer ces stock options dans le compte de résultat puisque ça va nous faire afficher typiquement des pertes à des moments où on affichait des profits parce qu'on donne beaucoup de stock options à nos salariés. Et si vous faites ça, ça va faire qu'on va donner moins de stock options aux salariés, donc ça va diminuer la compétitivité de l'économie américaine, puisque les stock options, c'est ça qui explique la réussite des entreprises de technologie avancées dans la Silicon Valley et ailleurs, etc. etc. Bref, intense campagne de lobbying qui s'est traduite par effectivement un retournement assez brutal, puisque le FASB avait ce projet assez avancé de faire comptabiliser dans le compte de résultat les stock options. Le Congrès a dit à la SEC le FASB fait ça, on lui coupe les vivres et donc on arrête le budget du FASB, ce qui est un droit souverain du Congrès. Et donc la SEC a reculé, a dit au FASB peut-être que c'est pas une bonne idée après tout, et le FASB a été obligé de renoncer à ce projet jusqu'au début des années 2000 en tout cas, donc ce qui illustre tout à fait l'impact de la norme comptable dans le monde réel, c'est-à-dire que les entreprises ont dit si on impose la comptabilisation en compte de résultat, on va être amené à donner moins de stock options. C'était d'ailleurs un argument tout à fait juste, puisque au début des années 2000, cette comptabilisation a été imposée et ça a conduit les entreprises de manière générale, pas tellement les entreprises de technologie, mais plutôt les grandes entreprises, à donner moins de stock options. C'est tout à fait mesurable, il y a eu une marche d'escalier en termes d'attribution moyenne de stock options. Donc ça devient un enjeu politique, puisque ça devient un enjeu tout simplement de politique économique. En fonction de la norme qui est adoptée, le comportement des acteurs économiques va être différent. Donc même si ce n'est pas la vision traditionnelle de la politique économique, politique budgétaire, politique monétaire, politique fiscale, etc., c'est bien un instrument de politique économique qui permet d'influencer le comportement des acteurs économiques. Cet exemple des stock options est assez représentatif, mais il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait citer d'impact concret de la norme comptable sur le comportement des acteurs économiques. Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que la normalisation comptable reflète une économie politique, c'est-à-dire qu'en fonction des parties prenantes qui détiennent l'influence prépondérante à un moment donné, ça va donner des normes comptables différentes. Le plus évident, c'est le contraste que j'ai développé entre la tradition américaine de normalisation et la tradition, disons, française, puisque bon, l'Union soviétique est devenue ce qu'elle est, l'Allemagne nazie aussi, donc finalement après la Seconde Guerre mondiale, dans le monde occidental, c'est la France un peu qui a porté de la manière la plus forte cette philosophie du plan comptable général, donc un peu top-down, que je décrivais tout à l'heure. Donc prenons ces deux pays, les États-Unis, la France, ça correspond effectivement à une économie politique différente. Aux États-Unis, des actionnaires très puissants qui déterminent l'essentiel de l'effort de normalisation comptable sous le contrôle de la SEC, qui elle-même est là pour protéger, c'est son mandat, les actionnaires minoritaires dans le marché boursier américain. Et inversement, en France, un État très puissant, le cadre d'une économie assez fortement administrée, et donc des normes comptables qui sont déterminées avant tout pour les besoins du pilotage de l'économie, de la statistique nationale et aussi du contrôle prudentiel du système financier et de la préoccupation de stabilité du système financier. On pourra y revenir si vous le souhaitez, puisque c'est un sujet d'actualité. Donc, je pourrais raffiner un peu cette description. Disons que si on fait une topographie des grandes parties prenantes dans l'économie, que ce soit les actionnaires, les dirigeants d'entreprises, les créanciers de ces entreprises, donc les banques, les autorités publiques en charge de surveiller tout ça, les autorités fiscales, les autorités statistiques, les autorités de surveillance prudentielle donc du secteur financier, les salariés... pourquoi pas les clients et fournisseurs, les médias, l'opinion publique, toutes ces parties prenantes du système économique et de la gouvernance des entreprises ont vis-à-vis des normes comptables des exigences et des priorités qui sont parfois convergentes, parfois divergentes. Et donc la normalisation, dans l'absolu, est un exercice d'arbitrage entre ces différentes priorités et d'arbitrage aussi entre des priorités intrinsèques de la normalisation comptable, en termes des objectifs de cette normalisation. Il est d'usage dans la profession d'en distinguer quatre, qui sont la pertinence de l'information financière donc produite sur la base de ces normes comptables. Est-ce que cette information financière va être pertinente pour les décisions économiques que doivent prendre les différents acteurs? Évidemment, ça pose la question de quels acteurs, ce qui renvoie au point précédent. La fiabilité de cette information, est-ce que cette information est falsifiable, est-ce qu'elle doit être considérée comme fiable, est-ce qu'on peut être confiant que c'est bien les bons chiffres et pas des chiffres qui ont été trafiqués, la comparabilité, est-ce que cette information est comparable d'une entreprise à l'autre, et également pour une même entreprise au cours du temps, ce qui est essentiel si on se rappelle notamment de la préoccupation des actionnaires, encore je renvoie à l'Italie du Moyen-Âge, l'actionnaire, il veut pouvoir comparer les comptes de l'entreprise A ou de l'entreprise B pour savoir s'il vaut mieux qu'il mette son argent dans l'entreprise A ou l'entreprise B. Donc cette dimension de comparabilité, elle est directement liée au rôle du système financier pour offrir une allocation optimale des capitaux qui est le cœur du rôle du système financier dans la croissance de l'économie. Et puis enfin, la compréhensibilité, je n'ai pas de terme moins barbare, mais disons le fait que cette information puisse être comprise tout simplement et aussi élaborée à un coût qui ne soit pas prohibitif par les acteurs financiers. Donc, économiques et financiers. Donc, là aussi, ces exigences paraissent de bon sens, mais en fait, lorsqu'on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a des arbitrages difficiles entre la pertinence et la fiabilité. Les informations les plus faciles à contrôler ne sont pas forcément les plus pertinentes pour les acteurs économiques. Entre la fiabilité et la comparabilité, si on veut typiquement une information comparable, par exemple, entre deux pays différents, ce n'est pas forcément les mêmes informations qu'on va pouvoir contrôler de la manière la plus fiable dans ces deux environnements. Entre la pertinence et la comparabilité, c'est typiquement le cas qu'une information pertinente va avoir tendance à être une information qui est spécifique à l'entreprise ou à son secteur d'activité. Inversement, si on veut une plus grande comparabilité, on va vouloir des informations qui peuvent se calculer de la même manière pour tout type d'entreprise, pour tout type de secteur. Donc là aussi, des arbitrages difficiles. Et puis, avec cette exigence de compréhensibilité, puisque... si on veut pousser très loin la logique soit de comparabilité, soit de performance, soit de pertinence, soit de fiabilité, on va avoir éventuellement des informations assez compliquées et donc difficiles à comprendre. Donc, des arbitrages difficiles, ce qui donne évidemment, et vous avez compris que c'est là que je voulais en venir, un pouvoir important à l'autorité de normalisation, puisque c'est elle qui effectue ces arbitrages, qui décide pour qui elle travaille, pour, en fonction évidemment du mandat qui lui est donné, ça on voit l'architecture juridique de tout ça, mais l'autorité de normalisation est celle qui effectue tous ces choix dans le contexte d'économie politique qui est le sien. Alors, tout ceci nous amène, et je vois que le temps court plus vite que, comme toujours dans la vie, qu'on ne le désirerait, tout ceci nous amène à la normalisation comptable internationale. Et donc à cette expérience, comme je la qualifie dans ce petit fascicule, expérience inédite, expérience mondiale inédite de normalisation privée. Alors de quoi s'agit-il ? À l'origine, c'est un comité qui a été mis en place entre les organisations professionnelles de la profession comptable, initialement du Royaume-Uni, du Canada et des États-Unis, ensuite élargi à une dizaine de pays en 1973, hein, qui ont créé donc le comité des normes comptables, de normalisation comptable internationale, International Accounting Standards Committee, en 1973, qui était au départ plutôt un forum de comparaison des différentes pratiques et d'élaboration de standards communs, mais qui était là plutôt pour guider la normalisation de chaque pays, de donner des références communes aux normes de chaque pays, mais sans avoir à cette époque l'ambition d'être directement applicable dans chacun des pays sans l'intermédiaire d'une normalisation nationale. Et puis ensuite, il y a eu une histoire qui a fluctué, comme pour toutes les organisations. Dans les années 80, l'IASC n'a pas réussi vraiment à intéresser beaucoup les autorités des pays développés. En revanche, il y a eu un fort intérêt de la part de la Banque mondiale, notamment, et d'autres organisations de développement pour finalement faire de ces normes internationales élaborées par l'IASC des normes par défaut pour des pays en développement qui n'avaient pas eux-mêmes l'infrastructure pour élaborer des normes comptables de qualité, donc de donner un peu une normalisation prête à l'emploi pour des pays en développement. Et puis, dans les années 90, de nouveau, un dynamisme porté d'ailleurs par la mondialisation, naturellement, et notamment par la prise de conscience aux États-Unis, notamment de l'importance de penser la compatibilité entre différents systèmes d'environnement des affaires pour des entreprises multinationales. L'élaboration, à la fin des années 90, d'un système de normes complet, censé pouvoir être utilisé dans n'importe quelle économie développée, même si à l'époque, même dans ses rêves les plus fous, l'IASC ne pensait pas nécessairement que ces normes pourraient être un jour d'application directe, mais plutôt l'idée étant de donner encore à cette époque un cadre de référence commun qui puisse être utilisé par des normalisateurs nationaux. Fin des années 90, donc il y a 10 ans. Mais pour le sujet dont nous parlons aujourd'hui, la normalisation comptable internationale, il y a 10 ans, c'était la préhistoire. Parce qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire au début des années 2000, qui a été une décision très radicale, très audacieuse, pas forcément pensée jusque dans ses ultimes conséquences à l'époque, de l'Union européenne d'adopter les normes comptables internationales dans une logique de quasi-application directe pour l'ensemble des entreprises cotées en Europe pour leurs comptes consolidés, qui sont l'information essentielle utilisée par les investisseurs. Décision proposée par la Commission européenne dans une communication de juin 2000 et inscrite dans le droit européen par un règlement, donc pas une directive, un règlement donc d'application directe du Parlement et du Conseil de juillet 2002. Après une adoption unanime en Conseil et quasi unanime au Parlement, avec juste un très petit nombre, une vingtaine de voix contre, je crois, au printemps 2002. Donc, que disait ce règlement 1606-2002 du Parlement et du Conseil? Il dit, voilà, il y a ces normes internationales qui, à l'époque, étaient au nombre d'une quarantaine de normes, si ma mémoire est bonne, entre 30 et 40. Donc, textes qui qui concernent chacun un problème particulier. Il y a des normes sur, je sais pas quoi, moi, périmètre de consolidation. Il y a des normes sur la présentation de l'information concernant les actifs financiers. Il y a des normes concernant l'information à fournir en cours d'exercice comptable. Enfin bon, c'est un inventaire à la Prévert, hein, mais disons que l'ensemble de ces normes permet de savoir exactement ce qu'on doit faire en matière de comptabilité, en tout cas en principe. Normes et quelques interprétations, je passe sur les détails. Texte interprétatif. Bref, ce que dit le règlement de 2002, c'est la commission va déterminer les normes applicables dans l'Union européenne en adoptant ou en décidant de ne pas adopter chacune de ces normes internationales. C'est-à-dire que le corpus de normes applicables aux sociétés cotées dans l'Union européenne, ce sont celles des normes internationales qui auront été adoptées par la Commission. Mais l'élément crucial là-dedans, c'est qu'on ne donne pas le choix à la Commission. Soit elle adopte la norme, soit elle ne l'adopte pas, mais elle ne peut pas la réécrire. C'est-à-dire qu'en pratique, ça veut dire que, sauf conflit majeur, la norme est adoptée telle qu'elle, avec cette idée que ça permet d'avoir une cohérence entre le corpus de normes applicables en droit sur le territoire de l'Union européenne et celui qui est développé au niveau international par l'IASC, qui entre-temps avait changé de nom en 2001 et qui s'appelle maintenant l'IASB, International Accounting Standards Board. Les comptables, comme toutes les professions techniques, adorent se réfugier derrière une forêt d'acronymes. Donc vous avez un petit glossaire dans le fascicule. Alors cette décision, encore une fois inattendue par bien des aspects, a eu des conséquences radicales. D'abord, elle a été mise en œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2005, toutes les sociétés cotées en Europe appliquent les IFRS, comme s'appellent maintenant ces normes internationales, International Financial Standard, Financial Reporting Standards. C'est le sigle d'usage, encore un acronyme. Pour certaines sociétés, il y avait un délai jusqu'au 1er janvier 2007, peu importe, c'est un épiphénomène. Sachant que la Commission a adopté presque toutes les IFRS, je dis presque parce qu'il y a en fait une petite acrobatie juridique qui a été réalisée sur une norme particulièrement polémique qui s'appelle la norme IAS 39, qui porte sur la comptabilisation des instruments financiers et pour lequel la Commission a retenu une interprétation créative du règlement de 2002 en disant voilà, je ne peux pas réécrire la norme, mais en revanche, je peux n'en adopter qu'une partie des paragraphes, c'est-à-dire qu'il y a certains paragraphes qui ont été effacés, carved out, excisés en quelque sorte, dans la version adoptée en droit communautaire de la norme. Ce qui est une interprétation, à mon avis, extrêmement audacieuse du règlement et qui ne résisterait pas à une remise en cause en justice, mais en l'occurrence, peu de parties, manifestement, ont intérêt à agir en la matière. Et donc, à cette différence près qui est minime, je crois, et qui sera probablement rectifiée dans un délai proche, les entreprises européennes, aujourd'hui, appliquent les IFRS. Donc, ça veut dire que en pratique, depuis 2005, d'ailleurs, la Commission a adopté toutes les nouvelles normes IFRS, donc on peut penser que, sauf, y compris notamment une norme IFRS 8 qu'elle aurait pu ne pas appliquer et qui était assez controversée, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir dans la discussion. On peut considérer que pour de manière pratique, on peut dire que l'IASB, donc cette organisation comptable internationale, décide souverainement des normes comptables qu'appliquent les entreprises européennes, dans la mesure où ce mécanisme d'adoption européen a toutes les caractéristiques d'une chambre d'enregistrement, en tout cas dans les circonstances actuelles. Alors ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est qu'il y a eu un effet d'entraînement de cette décision européenne tout à fait spectaculaire. C'est-à-dire que d'abord les pays du pourtour européen, les pays du Commonwealth, puis d'autres pays à travers le monde se sont mis à adopter les IFRS et selon des modalités qui variaient d'un pays à l'autre, à leur donner force de loi sur leur territoire. Ça a été le cas à partir de 2002 en termes de décision. Généralement, entre le moment de la décision et le moment où elle est applicable, il y a toujours un délai qui est de l'ordre de 3, 4, 5 ans pour que les entreprises aient le temps de se préparer. Donc, décision prise en 2002 pour certains pays, donc pour l'Union européenne, et dans la foulée pour certains pays du Commonwealth ou du pourtour européen, sachant que le règlement communautaire est d'application immédiate dans l'espace économique européen. Et plus récemment, donc en 2007, pour un certain nombre de grandes économies mondiales, comme le Japon, la Corée, en 2006, je crois, pour le Canada, en 2006, mais avec application très rapide en 2007 pour la Chine, avec encore quelques écarts très significatifs, plus significatifs que dans le cas européen, entre les normes adoptées en Chine et les normes IFRS. On pourrait faire un tour du monde comme ça, mais en gros, toutes les grandes économies, sauf les États-Unis, ont adopté ces IFRS avec des modalités spécifiques parfois, ou en tout cas ont décidé de les adopter à échéance pour la plupart au maximum 2011-2012. Les États-Unis eux-mêmes s'y sont mis en partie, puisque à la fin de l'année dernière, à la fin 2007, après un débat, la SEC a décidé d'autoriser l'utilisation des IFRS au lieu des normes américaines pour une catégorie particulière d'entreprises cotées aux États-Unis, qui sont les entreprises non américaines cotées aux États-Unis. Donc, typiquement, je ne sais pas moi, Total par exemple est cotée aux États-Unis, mais Total jusqu'à cette année devait réconcilier, comme on dit dans le jargon, ses comptes en IFRS ou en normes françaises précédemment avec les normes américaines US GAAP, et n'a plus besoin de le faire à partir de cette année à la suite de cette décision d'application quasi immédiate de la SEC. Ce qui représente un saut juridique considérable pour les États-Unis, puisque le principe du droit boursier américain, c'est qu'il protège l'investisseur américain, et l'investisseur américain a accès direct à l'investissement des titres cotés aux États-Unis, que ces titres soient émis par des entreprises américaines ou par des entreprises étrangères. Donc aujourd'hui, il y a cette percée qui est tout à fait inédite aux États-Unis, qui est très récente, que les actionnaires américains donc, achètent des titres dont l'information financière est élaborée en fonction de normes qui échappent au contrôle de la SEC, puisque ce sont les normes IFRS. C'est tout à fait inédit dans l'ordre juridique américain. Voilà où on en est en termes de développement. Alors, je conclurai, puisque je pense que mon temps de parole est bientôt écoulé, en revenant sur cet animal, l'IASB, qui élabore ces normes qui, donc, maintenant sont appliquées de plus en plus à travers le monde et qui le seront un jour aux États-Unis, puisque maintenant, le débat américain a changé de nature dans le courant de l'année 2007. Avant, il était, est-ce qu'un jour on va appliquer les IFRS? Et maintenant, c'est quand, comment, selon quelles modalités et à quelles conditions, mais... C'est maintenant une certitude que l'objectif, que le résultat à moyen-long terme, disons à échéance de 10 ans dans tous les cas, sera une application des IFRS aux États-Unis. Évidemment, la question c'est quels IFRS, avec quelle gouvernance, et là-dessus c'est une discussion qui est d'actualité. L'IASB au jour d'aujourd'hui c'est quoi? C'est un comité de 14 personnes, dont 12 à temps plein, dont c'est donc le métier, et 2 à temps partiel qui ont un autre métier mais qui participent aux travaux de l'IASB. Donc ça, c'est le board, le International Accounting Standards Board, qui est basé physiquement à Londres. En tout cas, c'est à Londres qu'ont lieu ces réunions, avec un staff également majoritairement à Londres, qui aujourd'hui doit être d'une soixantaine de personnes, qui préparent les dossiers, sachant qu'une grande partie du travail technique de préparation des dossiers est également fait par des partenaires extérieurs qui sont généralement les Big Four. Donc une sorte d'apport en nature des Big Four, disons, aux travaux de l'IASB, à travers la participation de leurs équipes. Ce qui peut sembler choquant, mais en fait, c'est là qu'est la compétence technique comptable. Et encore une fois, la comptabilité, c'est une technique. Il y a une barrière à l'entrée. N'importe qui ne peut pas rentrer dans les discussions de normalisation comptable comme ça. Donc, en l'occurrence, ceux qui connaissent sont ceux qui connaissent le mieux ces aspects techniques, presque par construction, ce sont les gens qui travaillent dans des cabinets comptables internationaux. Et il se trouve que c'est une profession qui est devenue extraordinairement concentrée, donc ces quatre facteurs. Ce qui pose d'ailleurs toute une série d'autres questions, mais qui ne sont pas uniquement liées à la normalisation. Alors, comment est gouvernée cette organisation? Le board est lui-même nommé et financé par une autre organisation qui s'appelle International Accounting Standards Committee Foundation, qui est une fondation de droit américain basée dans le Delaware, mais qui n'a pas vraiment d'activité opérationnelle aux États-Unis, mais qui consiste essentiellement en un circuit de financement et un organe de gouvernance qui est un comité de trustees au nombre de 22, qui tiennent leur comité un peu partout en fonction des circonstances et qui sont répartis à travers le monde. Donc il y en a une demi-douzaine qui sont des Européens, une demi-douzaine d'Américains, une demi-douzaine du reste du monde, plus un certain nombre de personnalités venant de différentes institutions ou professions. Et ces trustees, donc, détermine la composition de l'ISB en renouvelant ses membres lorsqu'un mandat arrive à échéance et ont un rôle de contrôle et de supervision et ce sont eux également qui s'occupent de collecter les fonds nécessaires au fonctionnement de cette organisation. Pour donner un ordre de grandeur, je pense que l'an dernier c'était de l'ordre de, je sais pas, une quinzaine de millions de livres, je pense, de livres britanniques. L'ISB étant établi à Londres, ils publient leurs comptes en livres britanniques. Et donc, un financement qui aujourd'hui est un peu de briques et de brocs que les trustees essayent d'organiser sur une base un peu plus structurée, avec pas mal de difficultés. Leur idée étant d'instaurer un circuit de financement spécifique pour chaque pays, avec un équilibre global des contributions de chaque pays en fonction de leur importance boursière, en gros. Et donc, selon les pays, ce sont des contributions volontaires ou une espèce de taxe parafiscale collectée par les autorités locales. Enfin, c'est un schéma assez baroque, mais qui est en train de se mettre en place, au moins provisoirement. Donc, sous le leadership des trustees, les trustees ont un nouveau président après avoir été sans président, enfin avec un président par intérim pendant assez longtemps. Depuis le 1er janvier, il s'agit de Gerrit Zalm, qui est l'ancien ministre des Finances néerlandais. Qui est donc maintenant président des trustees. Je ne sais pas si c'est un métier à plein temps ou à temps partiel, mais en tout cas, c'est maintenant l'autorité suprême de cette organisation de normalisation comptable internationale, qui est donc totalement autonome. La constitution, il y a l'ISC Foundation a une constitution, donc ses statuts en quelque sorte. La Constitution dit que ce sont les trustees qui nomment les nouveaux trustees, quoi. C'est une cooptation d'un groupe totalement autoproclamé en termes de légitimité formelle. Alors, il y a une nouveauté très importante qui date là aussi de la fin de l'année dernière. L'ISC Foundation a décidé d'introduire un organe de contrôle qui rassemblerait, mais ce n'est pas fait encore, des autorités de supervision, de surveillance boursière, de régulation boursière de différents grands États et qui auraient un rôle un peu de censeur avec éventuellement un droit de veto sur les nominations de nouveaux trustees qui s'appellerait le Monitoring Group. Tout ça est encore à l'état de projet et fera l'objet bientôt d'une consultation du marché. Donc on est à un moment charnière où cette entité privée, à la légitimité autoproclamée, introduirait dans sa gouvernance un droit de regard d'autorité politique, mais dont il n'est pas encore évident s'il s'agirait d'un pouvoir plutôt formel ou d'un pouvoir réel. Donc en pratique aujourd'hui, l'organisation de normalisation comptable internationale est une organisation privée qui définit elle-même ses propres règles. Et qui pourtant détient cet instrument de politique économique important adopté dans presque tous les pays du monde et probablement bientôt aux États-Unis. Voilà le décor qui est planté. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'engager un dialogue sur cette expérience assez unique et notamment de la mettre en perspective par rapport aux autres cas que vous avez discutés dans le séminaire. Moi, ce qui me paraît unique dans le cas comptable, mais c'est probablement par ignorance des autres situations, c'est que c'est une sorte de point extrême, disons, d'une norme mondiale établie pour le monde entier, avec une gouvernance privée, avec, on voit bien maintenant, une tension dans le système qui les pousse à chercher une légitimité publique, mais d'une manière très, très embryonnaire et, à mon avis, pas convaincante aujourd'hui, on peut y revenir, dans ce projet de Monitoring Group. Ce qui est sûr, c'est que cette gouvernance ne peut pas être démocratique, puisqu'elle est mondiale. Et que les pays qui pèsent le plus lourd, notamment la Chine, ne sont pas des pays démocratiques. Ils n'acceptent pas vraiment le principe démocratiques dans leur propre ordre interne. Donc un défi si on cherche à légitimer l'architecture de gouvernance par un principe démocratique. Et en pratique, la démocratie qui structure l'IASB, c'est celle non pas de l'humanité, mais du marché. C'est-à-dire c'est plutôt, comme je le disais, dans la manière dont l'ISC Foundation essaye de répartir son financement, de le faire en pondérant non pas par la population, mais par l'importance des marchés financiers dans chacun des pays. On pourra y revenir, de ce principe de pouvoir du marché, ou de légitimité du marché d'ailleurs. Un débat qui est en train de naître, mais qui va être extrêmement vif dans les mois et les années à venir, qui est le débat américain, puisque finalement, aujourd'hui, les États-Unis sont le dernier pays qui vit un arbitrage, encore maintenant, entre la légitimité de leur politique interne, souverain, déterminée par le Congrès, et puis la légitimité de ces normes internationales. Donc un aspect important du débat actuel, c'est de savoir si l'IASB va pouvoir convaincre le Congrès américain que finalement ces normes doivent être adoptées en gros telles qu'elles sont aujourd'hui, ou si le Congrès américain va y mettre des conditions très fortes en termes de changement de la gouvernance ou des processus internes de l'IASB. Sachant que l'IASB a toujours eu les yeux tournés vers les États-Unis. En fait, l'adoption des IFRS par l'Europe était un événement très paradoxal, puisque l'IASB ne s'était pas du tout occupé de l'Europe. En fait, elle n'avait pas cherché à concevoir un produit attractif pour l'Europe, elle avait cherché à concevoir un produit attractif pour les États-Unis. Et c'était fait mener un peu par le bout du nez par la SEC, mais les Européens, pour des raisons sur lesquelles on reviendra sans doute, qui sont analysées dans le petit fascicule, à un moment, sont arrivés face à une décision où la moins mauvaise décision à prendre, ou celle qui s'imposait, c'était effectivement ces normes internationales. Voilà, maintenant, je vous propose de passer à l'échange sur la base de ces éléments.
Merci beaucoup pour lancer la discussion et prolonger quand même.
On peut continuer d'enregistrer pendant l'échange, si ça vous dit. C'est comme vous voulez. Moi, ça ne me gêne pas.
Bon, pas de problème.